Oyez, oyez, chers tipeurs, laissez-moi vous conter l'histoire des meilleurs graphistes du monde en l'an de grâce 1990, à savoir dans le numéro 79 d'un bon vieux tilt des familles que j'ai retrouvé dans mes cartons à souvenirs. C'est un dossier, alors qui est extrêmement long, et donc pour cette revue de presse rétro, je ne vais pas non plus vous le lire comme ça bêtement du début jusqu'à la fin, puisqu'il est très très long. Ce dossier, intitulé « Les dieux » du pixel, donc revient sur des graphistes français de l'époque, de talentueux graphistes qui nous expliquent leur méthode, leur histoire, leur petite technique, leur formation. Pour les amateurs, il y a du trivia, en veux-tu, en voilà, mon bon ami. Le dossier s'ouvre ainsi. Pendant 2 semaines, je cite, Tilt a rencontré pour vous les meilleurs graphistes français du moment. Le but de l'opération, faire toute la lumière sur cette profession passionnante et communiquer aux lecteurs férus de pixels quelques recettes magiques. Âgés de 20 à 34 ans, ceux qui ont fait BAT, les voyageurs du temps ou Téniscope sont passionnés par le dessin sur micro. Plus que tout, c'est l'animation et les nouvelles techniques de dessin qui les poussent tous les jours à faire mieux. Ce dossier se décompose donc en plusieurs parties. Comment travaillent les dieux du pixel? Comment vivent-ils leur passion? Et pour quel salaire? Suivent enfin 8 astuces de pro pour les accros de la palette et du pinceau. Alors pour les fans, on trouve des images absolument sublimes de travaux, que ce soit d'Éric Chailly, de Philippe Dessoli, ça c'est des noms qui doivent vous parler, Stéphane Pollard. On voit les étapes de la forme rudimentaire du décor jusqu'à sa version finale. Si cela vous intéresse, je peux vous mettre sur le Tipeee des petits screenshots que je ferai avec mon super iPhone 5 qui rame en ce moment. Bref, c'est un autre débat. Donc ce dossier nous dit... Qui sont-ils? Que font-ils? Et comment le font-ils? Les graphistes de la micro-ludique nous font vibrer un peu plus tous les jours. Pour l'équipe de Tilt et tous ses lecteurs, quoi de plus naturel que de chercher à comprendre, à connaître ces dieux du pixel, ces magiciens de la loupe? 8 des plus grands graphistes français du moment analysent leur profession, nous dévoilent leurs techniques, nous font part de leur passion, la nôtre aussi. Celle du jeu. Pour décrire au mieux ce que représente le métier de graphiste microludique, il nous a semblé important d'aborder les phases de travail dans l'ordre chronologique de la mise en place d'un programme. Le dossier énumère les étapes, les étapes de travail de ces graphistes des années 90. On nous dit la première étape est de rechercher la vue, V-U-E, la vue. Cette fameuse vue sur laquelle ont insisté tous les graphistes interviewés, nous dit-il, suit directement l'étude du scénario. Pour un soft d'arts martiaux, par exemple, la question est la suivante. Le ring sera-t-il vu de face, de côté ou de haut? Question évidente, bien sûr, mais dont la réponse incombe très souvent au graphiste. C'est lui qui va le plus souvent proposer des ébauches papier, parfois un dessin complet de l'écran du jeu principal. Pour la création d'un soft, il vous faudra donc dessiner un écran de base, définir un scrolling pour les softs d'action, définir aussi les échelles de taille des personnages et calculer le nombre de positions, c'est-à-dire le nombre des animations. Sur les storyboards, cette dominance du graphisme comme base de réflexion est évidente. Sans remettre en doute l'importance du scénario et plus tard de la programmation, c'est donc le graphisme qui est à la base même du jeu, c'est ce que l'on montre pour vendre un projet, l'esquisse qui permet vraiment de se lancer dans la réalisation du projet. Pour beaucoup de graphistes interrogés, il s'agit d'une étape de réflexion parfois longue où le travail d'équipe a son importance. A ce titre, il exige une règle d'or que se devra de respecter tout créateur en herbe. Il faut absolument être au courant de tous les softs qui sortent sur le marché, observer donc leur vue, cette fameuse vue, leur concept graphique et bien sûr tenter d'en inventer de nouveau, de miser sur l'originalité dès que c'est possible. Cette notion de vue est cependant moins fondamentale dans la réalisation des jeux d'aventure. Il s'agit plus, dans ce dernier cas, de coller à une ambiance visuelle, de respecter l'idée mise en place par le scénariste. Alors après, on nous parle d'une préparation poussée, et on nous dit que pour ne pas perdre de temps lors de la phase de réalisation, graphistes, scénaristes et programmeurs vont établir un cahier des charges. Pour les décors, les sprites et l'animation, le graphiste doit suivre ici toutes les phases de choix de couleurs, choix du nombre de positions pour un personnage, d'écran, etc. Philippe Dessoli, donc graphiste, chez Océan, sur Ivanhoé, avec Michel Baquet, passe environ un mois à établir son cahier des charges. C'est une période qui me passionne, nous dit Philippe Dessoli, même si j'ai toujours envie de passer au plus vite au travail sur la machine. Et concernant les outils, on nous dit que les graphistes français travaillent quasiment tous sur Amiga ou Atari ST. Les softs de dessin les plus populaires sont les suivants, Deluxe Paint 3, la gamme des softs Cyber et des gaz Elite. Quoi qu'il en soit, beaucoup de graphistes utilisent plusieurs logiciels. Deluxe Photo Lab hein, pour le traitement des couleurs, DigiVu et VidiST pour la digit, Sculpt 3D et CyberSculpt pour l'emploi de la 3D. Tout dépend en fin de compte de deux facteurs. Il faut savoir exactement de quelle tâche il s'agit et surtout manier toujours le même soft pour finalement le connaître à fond et oublier que l'on produit un jeu. Certains dessinateurs travaillent ainsi sur des softs maison. Chez Océan, graphistes et programmeurs se servent d'un programme créé spécialement à leur intention. Ce logiciel offre une souplesse et une ergonomie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs pour la création et l'animation de sprites. Océan possède également un programme équivalent pour la mise en place des décors par bloc, idéal pour les jeux d'action. Concernant le choix des couleurs, hein, on nous dit que le choix de palette doit être pris en compte avant même le tracé du premier croquis. Ce travail est très souvent long. Il doit tenir en compte de l'ambiance que l'on veut donner au soft, hein, mais aussi des restrictions liées à la programmation et à la place mémoire. Alors Stéphane Pollard, hein, chez Lancore, hein, nous dit « Dans l'illustration classique sur papier, on n'est jamais limité hein, dans le choix des couleurs. Sur micro, j'ai appris à me servir au mieux des mélanges de teintes à jongler avec une seule palette. C'est passionnant !» Et donc le graphiste, hein, nous dit-il, dispose en effet de 16 couleurs au maximum. Alors, 16 couleurs, hein, vous voyez, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même, le contraste est assez saisissant. Alors on nous parle aussi un peu plus loin du tracé fil de fer. Hein. On nous explique hein, que le graphiste, une fois qu'il a défini sa palette de couleurs, va tracer à main levée les premières esquisses de son décor. Cela correspond au travail du peintre lorsqu'il trace au fusain les bases d'un tableau. L'option K-Line, hein, qui permet d'enchaîner des lignes à l'écran, est très souvent utilisé ici. Tout à la souris, Eric Chailly, hein, donc, qui à l'époque hein, se fait vraiment connaître pour son travail sur les voyageurs du temps de Paul Cuisset, trace son décor en graphisme fil de fer. Il prend en compte les éléments de décor décidés par le scénario et surtout l'orientation du plan de vue. Pour la perspective, la plupart des graphistes utilisent tout simplement d'un point de fuite au fond d'un écran à partir duquel ils tirent toutes les lignes fortes du décor. Et comme dernière manipulation, un petit travail à la loupe pour vérifier que toutes les lignes se rejoignent, qu'il n'existe pas de trous gênants pour le coloriage. La lumière est à la base de toute image, hein, affirme Eric Chailly. Aussi, nous dit-il, imaginez votre source lumineuse, le soleil, une lampe ou un décor intérieur, et notez toutes les surfaces éclairées directement, celles qui le sont un peu moins, et celles enfin qui demeurent dans l'ombre. Donc ça, les graphistes, hein, devaient vraiment prendre ça en compte aussi de manière très 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 importante et très pointilleuse, hein, vu que rien ne le calculait à l'époque pour eux. Contrairement au logiciel d'aujourd'hui, le dossier nous dit ensuite hein, que les graphistes travaillent selon diverses techniques. La plupart d'entre eux commencent par remplir toutes les formes par une couleur simple à l'aide de la fonction remplissage hein, que l'on trouve sur tous les softs de dessin. Ciel bleu, sol vert, mur d'un bâtiment gris, etc. Le rendu de la matière sera donné par la suite. Pour un mur de pierre, le graphiste va pointer la loupe hein, sur le fond gris uniforme qu'il crée et y ajouter deux ou trois teintes médianes, soit au pixel près, soit à l'aide du spray. Une autre méthode de travail hein, qui est aussi très largement utilisée. Avant de remplir les formes du dessin, le graphiste va travailler la matière sur une plage vide du décor. Lorsqu'il a par exemple obtenu l'effet de pierre, il le multiplie sur trois cadres distincts. Ensuite, il conserve tel quel le premier cadre, il assombrit légèrement le cadre 2, un peu plus le cadre 3. Il ne lui reste plus qu'à remplir les éléments de dessin avec ses brosses, en respectant bien sûr la source de lumière. Alors on nous dit que bien sûr les softs de dessin performants offrent à l'utilisateur des fonctions qui peuvent faciliter le travail de la matière. L'emploi des dégradés hein, de Deluxe Paint 3 permet d'obtenir très vite 3 teintes plus ou moins foncées de la même matière. Mais pour Dominique Sablon, hein, graphiste sur Mopiti, Vroom ou encore Tennis Cup, l'emploi de telles techniques ne vaut pas le travail à la loupe. Ce créateur préfère trouver la matière directement sur le dessin. Il utilise pour cela beaucoup d'astuces. Des astuces top secrètes, hein, nous dit-il, qui s'apparentent souvent à la superposition de deux trames, de deux matières. Dominique a créé, sous Deluxe Paint 3, des bibliothèques très complexes de trames et de textures. Il peut par exemple hein, appliquer sur une teinte une trame qui l'éclaircira à 25, 50 ou 75%. Donc ce dossier, vous voyez, est très intéressant puisqu'il nous donne un petit peu des techniques des graphistes de l'époque. Donc c'est vraiment très très sympa, surtout hein, quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo. Un peu plus loin, sur les jeux d'action, hein, on nous dit que, au contraire des jeux d'aventure, hein, bien évidemment, les décors sont pour la plupart constitués de blocs, des blocs semblables en fait à des sprites. Le graphiste établit un panel complet de blocs, il constituera ses dessins en juxtaposant ses 10 blocs. Cette technique permet un gain de place mémoire énorme par rapport à un grand nombre d'écrans fixes. Alors il y a d'autres techniques aussi, hein. Tous les graphistes n'utilisent pas bien sûr les techniques de dessin citées dans ce dossier. Philippe Dessoli, qui travaille actuellement sur une conversion arcade, alors scoop, hein, rétro scoop, hein, c'était la sublime adaptation arcade de Toki, qui sur Amiga est juste géniale, qui est la version la plus fidèle à l'arcade, non content en plus de proposer plein de musiques inédites qui défoncent celles qu'on entendait en arcade. Donc ça, c'est assez génial. Philippe Dessoli, donc, préfère quant à lui faire des croquis papier de tous ses sprites. Partir de rien, nous dit-il, hein, dit Philippe Dessoli, faire face à un écran noir, c'est horrible. Un peu plus loin, on parle aussi du temps et des conditions de travail. Et là, ça nous renvoie un petit peu à ce qui se passe en ce moment avec toutes les polémiques, hein, qui émergent, hein, que ce soit par rapport à Quantic Dream ou sur l'ensemble du milieu, hein, du jeu vidéo. On nous dit 200 disquettes d'ébauche, hein, et de décors pour BAT, plus d'un an de travail pour Mopiti Island, 300 digits pour Panza Kickboxing. Oh, Panza Kickboxing, ça rappellera aussi des souvenirs à mon frère Julien s'il nous écoute. Une semaine pour l'animation du décor de la maison de thé japonaise de Tsukiya. On ne dira pas que les graphistes sont des flemmards. En fait, un décor, un sprite pourrait toujours être amélioré. D'où les qualités maîtresses suivantes: beaucoup de volonté, ne jamais abandonner un projet et savoir organiser son travail. Face au programmeur, le graphiste, hein, de jeux d'action connaîtra souvent des temps morts. La mise en place du code programme est en effet bien plus longue que les dessins dans ce domaine. Il est important que l'artiste puisse alors s'occuper à d'autres activités liées au programme. Chez Computer's Dream, Olivier s'intéresse à la promotion du produit. Il gère aussi l'édition d'un fanzine en PAO. Chez Microids, hein, Cédric ne connaît pas de temps mort. Il gère à lui seul les graphismes de quasiment tous les softs. J'aime bien passer d'un logiciel à l'autre, cela me permet d'avoir du recul, de mieux juger d'un dessin lorsque je le reprends après avoir travaillé sur un autre logiciel, nous dit-il. Sinon, la meilleure solution réside dans le fait d'être freelance. À votre compte, hein, donc nous explique, est-ce que le terme n'était pas encore super connu, j'imagine, à l'époque. À votre compte, nous explique le magazine, c'est le cas d'Eric Chahi qui connaît des périodes de speed mais aussi quelques instants de repos. En fait, la masse de travail dépend pour beaucoup du type du soft traité. Les graphistes, hein, qui travaillent chez Lancor ont pour devoir de fignoler au maximum tout leur décor. Ils s'appuient à respecter à la lettre le contexte architectural de l'aventure. Plusieurs jours de recherche, hein, nous dit-on, sont nécessaires. De la documentation en bibliothèque, et oui, il n'y avait pas internet à l'époque, en tout cas on était vraiment aux prémices des prémices, et ne jamais laisser un pixel de trop. Résultat, il faut travailler plus d'un an sur un produit avant qu'il ne rapporte. D'après Dominique Sablon, il faudrait aujourd'hui 1 million de francs pour lancer le projet Mopiti Island dans des conditions salariales correctes. Au début de l'encore, toute l'équipe a travaillé pour 3 fois rien. Une expérience que je ne recommencerai plus, affirme Dominique. Et donc on nous dit combien gagne un graphiste. Par les salaires en France est toujours difficile. Ah oui, c'était déjà le cas à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Ça, c'est très français. La plupart des graphistes indépendants ont répondu à nos questions par un sourire, certes sympathique, mais bien peu parlant. Eric Chahi travaille en indépendant pour Delphine. Il se dit par exemple très content de ce qu'il gagne, sans commentaire. Dominique Sablon a connu des temps difficiles. Maintenant qu'il est à son compte, voici ses explications en ce qui concerne le traitement des graphistes. Un graphiste indépendant trouve dans son contrat 2 modes de paiement. Tout d'abord, il touche une avance sur salaire, c'est-à-dire une somme qui lui est versée soit en totalité au lancement du projet, soit étalée sur la durée du travail. Ensuite, lorsque le soft est mis en vente, il touche un pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Bien sûr, pour toucher réellement de l'argent, il devra attendre le montant de ses royalties et attendre que ces montants remboursent l'avance qui lui a été versée. Ensuite, c'est le jackpot selon que le titre se vende ou non. Alors le calcul de ces fameux royalties, hein, est le suivant. Les éditeurs accordent environ 17 à 18% de leur chiffre d'affaires, hein, aux auteurs. Cette part d'auteur sera alors partagée entre le programmeur, le scénariste et le graphiste par exemple. Imaginez, nous dit-il, un soft vendu 200 francs hors taxe dans le commerce, soit 240 francs prix réel, en magasin. Environ 50% vont au distributeur. Alors en fait, nous dit-on, à 45% seulement si le soft est très bon et jusqu'à 70% dans le pire des cas. Dans le cas moyen, il reste 100 francs. Les royalties, donc, sont alors de 17 francs, 17%. Le graphiste touchera au mieux un tiers de cette somme. Il faut payer le scénariste et le programmeur, soit environ 5 francs par logiciel vendu. Tout dépend ensuite du nombre d'exemplaires que vous achetez. Voyons maintenant quelques exemples précis. Dominique Sablon possède une expérience et une réputation qui lui permettent maintenant d'envisager les contrats suivants. Pour un jeu d'action, 70 000 francs est une somme raisonnable comme avance sur royalties. Sur un jeu d'aventure, entièrement réalisé par lui et son équipe, une somme fixe de 150 000 francs plus 10% de royalties permettrait à l'équipe de travailler dans de bonnes conditions. Et pour citer des chiffres vérifiés par le passé, sachez que Dominique Sablon touche 9% des royalties sur Tennis Cup, soit un peu plus de 9 francs par soft vendu. Un peu plus loin, on nous dit en ce qui concerne Infogrames, Dominique Giroud, graphiste depuis 5 ans dans cette maison, gagne actuellement un salaire brut de 9500 francs par mois. Deuxième exemple, le cas d'Océan France. Tous les graphistes de la maison touchent, quel que soit leur niveau d'ancienneté, 7500 francs par mois, brut, plus 360 francs de tickets repas, donc les tickets resto, hein. Un système de primes, hein, récompense en plus de cela le graphiste s'il respecte les dates de sortie du produit qu'il met en place. Donc là, c'est ce qu'on appelle maintenant les deadlines. Hein. Cette prime, hein, atteint 2000 francs quand tout se passe au mieux. Les programmeurs sont mieux payés, environ 9000 francs bruts et une prime maximale de 15 000 francs en fin de projet. Pourquoi cette différence? Alors la raison, hein, disent les interlocuteurs de Tilt à l'époque, c'est très simple. Il y a beaucoup plus de graphistes qui cherchent du travail qu'il n'y a de programmeurs. J'aimerais revenir sur un petit paragraphe intitulé « Face au futur, il faut se préparer ». Et j'ai bien aimé ce petit passage, puisque effectivement, avec des yeux, et en l'occurrence des oreilles, hein, vous concernant, de 2018, c'est assez sympa à entendre. Donc je cite Tilt qui nous dit « Bientôt le CD-ROM et des jeux toujours plus riches en graphisme. La plupart des graphistes se préparent à ce bond fabuleux. Ici, on met au point des bibliothèques complètes de matières, de la pierre vieillie au ciment brut, des centaines de ciels, de rivières, autant d'éléments qui permettront plus tard de faire vite et bien des softs de qualité. » Les graphistes doivent rester toujours très vigilants en ce qui concerne l'apparition de nouvelles techniques. Olivier Cordoleani vient de s'acheter une caméra pour maîtriser au plus vite la digit dans ses moindres détails. Marco De Flores, responsable des graphismes chez Loriciel, est chargé entre autres d'éplucher tous les nouveaux softs, de contrôler la sortie des utilitaires de dessin, etc., etc. C'est la course à l'armement matériel et intellectuel. Donc les fiches, les petits portraits. Alors si vous suivez le compte Twitter de l'émission @ revue de presse JV, tout collé, n'est-ce pas, éventuellement la page Facebook, j'ai posté quelques petites photos en taguant d'ailleurs Philippe Dessoli. Philippe, nous te saluons bien fort. Philippe Dessoli qui avait 20 ans à l'époque, je le rappelle, Philippe Dessoli, papa de Mr. Nuts, cette version Super NES de Mr. Nuts qui, moi, voilà, reste un de mes plus grands moments de l'époque. C'est lui qui s'est occupé des graphismes, de l'adaptation de Toki. On nous dit aussi, dans ce portrait, on nous rappelle qu'il avait fait les graphismes d'Ivan Noé avec Michel Baquet et ceux de Beach Volley. Bref, Philippe a 20 ans et donc sa formation, hein, donc voilà, chaque petite fiche, on demande en fait à chaque intervenant graphiste, hein, sa formation, les créations auxquelles il a participé, ses logiciels de travail, ses projets et l'opinion sur sa profession. Donc pour la formation, le magazine nous précise donc que Philippe a fait 3 années de formation dans une école de graphisme publicité et une année de perfectionnement effectuée en même temps que ses premières œuvres chez Océan. Donc au niveau des créations, au moment de l'apparition du magazine, c'est surtout Ivan Noé donc, et Beach Volley, comme nous l'évoquions il y a quelques secondes, qui ressortent. Au niveau des logiciels de travail, c'est Cyberpaint sur Atari ST, Deluxe Paint sur Amiga, l'inévitable, et tous les softs maison d'Océan. Au niveau des projets, il travaille actuellement sur une adaptation arcade. Donc à l'époque, le blaze ne pouvait pas être lâché, mais nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit bien sûr de cette adaptation magistrale de Toki. Concernant l'opinion sur sa profession, Tilt nous dit que Philippe est passionné par l'animation, l'aspect dessin animé des softs d'arcade. C'est ce qui l'a toujours poussé vers le dessin sur Amiga ou Atari ST. L'équipe interne de Loriciel. Là, c'est carrément une fiche regroupant une seule et même fiche, regroupant plusieurs personnes, à savoir Marco De Flores, 24 ans à l'époque, Yvan Guédon, 28 ans, Richard Martins, 42 ans, et Philippe Tessan, 25 ans. Au niveau des créations, l'équipe est entre autres responsable de Hirakana West Pfizer. Au niveau des logiciels de travail, Marco travaille sur Cyberpaint, Vidi ST pour la Digit. Concernant la formation de cette joyeuse troupe, Tilt nous dit que voici sans doute l'équipe la plus diplômée de la micro française. Alors, rien que ça. Richard Martins cumule à lui seul une demi-douzaine d'écoles, le même nombre de places d'illustrateurs de presse, etc. Diplôme national d'art graphique pour Philippe, art déco et beaux-arts pour Yvan, beaux-arts pour Marco. Ça cartonne sec, nous dit le journaliste, effectivement. Au niveau des projets, on nous dit beaucoup de projets, dont un jeu de boxe. Alors je ne sais pas si c'est c'était pas ce jeu de boxe, alors vous me direz là, si ma mémoire me fait défaut, si c'était pas Panza Kickboxing. De mémoire, c'est l'oriciel, et au niveau de l'époque, ça devrait correspondre. Qui est un très 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 beau jeu de kickboxing d'ailleurs. Je pense, c'est peut-être celui-là, mais je me trompe peut-être. Hein. Alors, opinion sur la profession. Allez savoir, nous dit-il, tant l'équipe est trop nombreuse pour un seul avis. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe est soudée, souriante et a priori prête à tout pour vous faire jouer. Très bien. Dominique Giroud, qui est la seule femme hein, de cette sélection. On parle beaucoup en ce moment de la parité homme-femme, hein, d'une manière générale, mais aussi en particulier dans l'univers du jeu vidéo. Dominique Giroud, qui a 29 ans à l'époque, qui est diplômée hein, d'architecture d'intérieur. Elle a travaillé sur Les Passagers du Vent, Draken, La Quête de l'Oiseau du Temps, etc. Donc de gros gros titres. Hein. Au niveau des logiciels de travail, hein, c'est Degas Elite pour ST, Deluxe Paint sur PC et quelques softs maison. Projet travaille actuellement à la réactualisation de jeux. Opinion sur sa profession, donc elle nous dit « Je ne joue que très rarement, je ne suis pas une accro de la micro. Pourtant, c'est le seul domaine qui me permet réellement de créer. Maintenant que mon expérience professionnelle se confirme, je me sens de plus en plus attiré par d'autres matériels, d'autres techniques. Les images de synthèse me font rêver. » Eric Chailly, alors, hein, nul besoin de le présenter, le papa d'Another World, qui n'existait pas encore à l'époque, hein, enfin en tout cas qui était en préparation dans l'ombre, secrètement, n'est-ce pas ? Eric avait 22 ans à l'époque, hein, imaginez-vous donc. Formation, nous dit-on, autodidacte, donc bon ça, si vous connaissez un petit peu le bonhomme, hein, on le sait. Il découvre, nous dit-on, l'informatique au lycée sur ZX81. Très vite, il apprend le basique et s'achète un Auric Atmos. Pour faire son premier jeu d'aventure, il entame des études d'électronique, mais s'aperçoit très vite que ce n'est pas la bonne filière. Il travaille alors tout seul et donne naissance au Spectre d'Anubis en 1984. L'oriciel refuse le projet, c'est en fait Microprogramme 5, Auric International, qui éditera le soft, c'est le début de sa carrière. Au niveau des créations, on nous dit que donc à ce moment-là, en 1990, après le Spectre d'Anubis, Eric réalise un jeu d'arcade de Guy édité par l'oriciel. Vient ensuite le pacte qu'il réalise entièrement salarié de l'oriciel. Chez l'éditeur Chip, hein, et toujours comme salarié, il abandonne la programmation pour se réserver au graphisme avec Voyage au centre de la Terre et Jeanne d'Arc. C'est à son compte qu'Eric continue sa carrière avec les Voyageurs du Temps, chez Delphine Software, donc le fameux jeu d'aventure hein, de Paul Cuisset, jeu qui lui a donné vraiment encore un plus grand tremplin pour aller bah, jusqu'à Another World. Et justement, en parlant des projets, Eric dit « c'est un soft qui est encore top secret ». Voilà. Concernant l'avis que se fait Eric à ce moment-là de sa profession, il dit, je cite, « c'est génial d'être à son compte et on est toujours libre, j'ai évolué ». Avec les machines. Ce qui compte maintenant, c'est l'animation et surtout l'interactivité. Le dernier portrait concerne Dominique Sablon. Alors, Dominique Sablon, j'avais omis de vous le dire la semaine dernière et heureusement qu'un auditeur me l'a rappelé. Dominique Sablon nous a malheureusement quitté le 27 août 2015. Il n'avait que 59 ans. Hein, il faut savoir qu'il avait participé, donc surtout... On a retenu surtout plusieurs jeux, là encore, hein, comme le Manoir de Mordviel, Mopity Island, Vroom, Roddy et Mastico. Et donc, bah, à l'époque hein, de ce dossier, il avait 34 ans. Lui aussi, nous dit-on, hein, au niveau de sa formation autodidacte, hein, comme Eric Chailly. Il travaille pendant 10 ans aux éditions Larousse, hein, pour faire des planches visiblement superbes, rencontre le directeur artistique de Gallimard, où il travaille ensuite comme illustrateur. Impressionné par les images virtuelles qui apparaissent sur micro, Dominique se lance dans cette voie. C'est le co-créateur de l'Encore. Vous voyez, ça, je l'avais complètement oublié. Dominique travaille désormais à son compte pour les plus grands de la micro ludique. Donc, création 1, le fameux Manoir, bien sûr, Mopity Island, Tennis Cup, Vroom, bref, que des tueries absolues. En logiciel de travail, il utilise Deluxe Paint 2 sur Amiga. Des projets top secrets, visiblement. Beaucoup d'idées, mais à ce moment-là, hein, pas moyen d'avoir un petit biscuit pour le journaliste. L'opinion sur sa profession. Tilt nous dit qu'il est très enthousiaste, même si l'expérience de l'Encore était aussi passionnante que difficile. Prêt à tout pour que la profession soit mieux connue du public et plus soutenue par les éditeurs. Son conseil pour clôturer ce dossier, donc... Nous citons Dominique Sablon, futur graphiste, soyez tout à la fois déterminé et créatif et n'oubliez jamais l'importance de la technique dans votre art. Je pense que c'est ainsi qu'on va clore ce dossier sur des mots de Dominique Sablon. Une sorte de petit hommage hein, tout modeste à notre niveau qu'on peut lui rendre. J'ai oublié de vous préciser que ce dossier a été réalisé par Olivier Hautefeuille.